BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Brack.
8h58, deuxième partie de Good Morning Market. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 et puis ensuite vous retrouverez les experts avec Raphaël Legendre. Nous le verrons dans un instant. Le CAC 40 est en très légère hausse. En tout cas, hier c'était assez poussif du côté de l'Europe. Certes, le CAC 40 a touché les 8500 points un peu de temps après l'ouverture. Nous étions d'ailleurs en direct. Et puis finalement, c'était une hausse de 0,4% hier soir au fixing. Seulement 0,8% pour l'Eurostock 50, alors que dans le même temps à Wall Street, eh bien c'était à nouveau le des records, notamment pour le Dow Jones quand le Nasdaq a gagné 3%. C'était sa meilleure séance depuis le mois de mars. Alors, est-ce qu'il faut revenir sur les indices européens en vue de cet accord qui devrait être signé vendredi entre l'Iran et les États-Unis? Élément de réponse dans un instant avec Laurent Schöderch qui nous accompagnera de BDL Capital Management. Michael Petitjean sera également dans cette émission depuis Waterloo Asset Management pour revenir sur la Banque Centrale du Japon qui a augmenté ses taux cette nuit. Deuxième hausse de taux en l'espace de 6 mois, hein, puisque vous avez déjà eu une hausse de taux de 25 points de base au mois de décembre. Le taux directeur est désormais de 1%. C'est une première depuis 1995. Ça n'a pas fait réagir grandement les marchés actions. À preuve en est, le Nikkei a touché la barre symbolique des 70 000 points cette nuit. Donc, nouveau record. L'indice gagne plus de 30% depuis le début de l'année. Nous parlerons bien sûr du secteur technologique qui continue de mener la danse et puis de SpaceX qui a encore gagné 20% après avoir gagné 19% vendredi. Pour ça, première séance. En attendant, il est 9h et c'est toute l'information économique du jour avec Léo Dumas.
Good Morning Market, le journal.
Et à la une, la deuxième journée d'un G7 qui tombe à pic du côté d'Evian, les dirigeants qui se réunissent aujourd'hui pour deux réunions d'actualité. Il y aura le Moyen-Orient à midi, mais d'abord l'Ukraine ce matin. Et on vous retrouve en direct, Hugo Bébé, pour BFM Business à Evian, où Volodymyr Zelensky doit arriver d'ici quelques secondes.
Oui, c'est ça. D'ici quelques minutes, Volodymyr Zelensky devrait arriver à l'hôtel d'Evian où ont lieu les réunions du G7. La réunion sur la guerre en Ukraine commencera normalement à 9h, enfin d'ici quelques minutes, autour de la table. Donc les dirigeants du G7 et Volodymyr Zelensky invités avec un objectif, que le président américain Donald Trump, jusqu'ici réticent, affiche son soutien au président ukrainien face à Vladimir Poutine. Donald Trump l'a affirmé hier, il s'est entretenu déjà avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky et a dit, je cite, qu'il pense pouvoir faire quelque chose. On en saura plus bientôt et suivra une deuxième réunion, cette fois sur la guerre au Moyen-Orient, après cet accord annoncé, ce protocole d'accord de paix annoncé par Donald Trump il y a quelques jours, dont la signature aura lieu vendredi. Le détroit d'Hormuz serait partiellement ouvert, si l'on en croit le président américain. Il sera ouvert complètement vendredi. Maintenant est la question de la sécurisation et du rôle des Européens. Il sera discuté avec les pays du Golfe également à midi.
Hugo Babet en direct à Evian au G7 pour BFM Business. Le G7 où après les tensions géopolitiques aujourd'hui sera question d'intelligence artificielle. Demain, de grands patrons du secteur sont attendus pour un déjeuner avec les chefs d'État. Quand dans le même temps s'ouvrira à Paris le salon Vivatech. Et alors c'est au cœur de cette séquence que Sébastien Lecornu annonce ce matin de nouveaux investissements français dans l'IA. On écoute le Premier ministre.
Le temps des expérimentations est désormais derrière nous. Le temps de la généralisation commence. Nous allons accélérer nos investissements. Le programme France 2030 consacrera donc 655 millions d'euros supplémentaires au développement de l'intelligence artificielle. Notre objectif est clair, soutenir les infrastructures, les capacités de calcul, la recherche, les entreprises et les filières industrielles qui feront la puissance de demain.
Sébastien Lecornu qui annonce donc ses 655 millions d'euros d'investissement dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce matin, à la veille de Vivatech, où Good Morning Business sera bien évidemment délocalisé, matinale spéciale autour de l'Orclusie à partir de 7h30 demain.
Merci beaucoup Léo Dumas pour ce rappel de l'information économique du jour. Dans un instant, tout le détail sur la séance. Le CAC 40 a ouvert en hausse de 0,3% au-delà des 8400 points. Juste avant, un petit mot du programme des experts que vous retrouvez à 9h30 avec Raphaël Legendre.
Ouais, Étienne, bonjour. On va dérouler aujourd'hui les conséquences économiques de l'accord signé entre l'Iran et les États-Unis, évidemment sur le pétrole et donc sur l'inflation et donc sur les taux et les banques centrales. Mais la grande question derrière tout ça, c'est cet accord va-t-il permettre à la France d'éviter la récession, une récession vers laquelle on se dirigeait absolument tout droit. On parlera aussi budget après une grande note de l'Institut des politiques publiques qui pose une question simple. Finalement, qui est responsable des déficits? Vous verrez que les réponses peuvent être un peu plus complexes. En tout cas, pas forcément celles que l'on croit. On viendra également sur l'idée qui risque d'agiter la présidentielle autour des retraites, c'est de supprimer l'âge légal. Oui, mais voilà, la durée de cotisation suffira-t-elle à rééquilibrer les comptes? Et puis enfin, on dissèquera avec mes experts du jour les conclusions du rapport parlementaire autour des fonds vautours, un rapport dirigé par Aurélie Trouvé, députée de la France Insoumise, présidente de la Commission des affaires économiques. On va voir si les fonds d'investissement détruisent réellement l'outil productif français, comme elle le prétend. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BDO, Guillaume Patrinal, fondateur de Debout VO2, et Valentine Hénouz, responsable de la stratégie taux chez Amundi. À tout à l'heure, 9h30.
En attendant, il est 9h04 et le CAC 40 est donc en très légère hausse ce matin de 0,3%. Au-delà des 8400 points, 8415 points, Schneider Electric, Safran et Thales sont les trois plus fortes hausses à l'ouverture. Trois titres qui gagnent plus de 1,5%. À l'inverse, STMicroelectronics, Arcelor et Kering ferment la marche. Les cours du pétrole sont sur les mêmes niveaux qu'hier matin, c'est-à-dire $80 pour le WTI, le baril américain, quand le baril de Brent est à $83, 42 € le mégawattheure pour le gaz en Europe. Sur le front du marché obligataire, ça se stabilise également. 3,59 pour le 10 ans français, 2,96 pour le Bund, le 10 ans allemand. Quand sur les taux courts, le 2 ans français est à 2,72, 2,57 pour le 2 ans allemand. Du côté des devises, l'euro-dollar est toujours sur le fil de la barre des 1,16. Et puis, du côté des valeurs, aujourd'hui, il faut assurer avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans le secteur de la défense. Hier, souvenez-vous, c'était Thales avec Renault. Hein, Renault qui avait noué un partenariat avec Thales. Et hier soir, d'après les informations du Wall Street Journal, c'est General Motors qui sera en pourparlers pour fournir des pièces d'armement à Lockheed Martin. Le titre General Motors est en hausse de plus de 20% hier soir en après-bourse. Et donc le secteur automobile qui était très largement déprimé ces derniers mois pourrait retrouver des couleurs grâce notamment au secteur de la dépense, au secteur de la défense. Un point ne fait pas une tendance, mais en tout cas les annonces se multiplient dans ce sens. Très courte pause, on se retrouve dans un instant avec les équipes de BDL Capital Management, Laurent Chauderge, pour regarder l'Europe. L'Europe qui sous-performe depuis le début du conflit en Iran. Depuis fin mars, le S&P 500 a gagné 10% contre seulement 1,5% pour l'Eurostock 50. Avec cet accord qui devrait être signé vendredi entre les États-Unis et l'Iran, est-ce le moment de revenir sur les valeurs européennes? Élément de réponse dans un instant. A tout de suite.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Brack.
C'est parti pour Good Morning Market. 9h08, le CAC 40 est donc en hausse de 0,3% après une hausse de 0,4% hier. 8410 points, plus 0,3% également pour l'Eurostox 50, proche d'un record historique à 6249 points. Le secteur de la défense se distingue ce matin après avoir sous-performé ces derniers jours. Thales est la plus forte hausse, suivie de Safran ou encore Airbus. Justement, on va se poser la question sur l'Europe. Est-ce que c'est le moment d'accélérer un petit peu ses investissements en Europe et de sous-pondérer la partie américaine? Bonjour Laurent Chauderge, merci de nous accompagner ce matin. Vous êtes membre du comité d'investissement de BDL Capital Management. Alors hier matin, en plus on était en direct sur Good Morning Market, on voyait l'Europe gagner 1,7%, quasiment 2%, avec donc Donald Trump qui a annoncé un accord avec l'Iran. Et puis au fur et à mesure de la séance, en fait ça a un peu fait seulement 0,4% pour le CAC 40 quand le Nasdaq a gagné 3%. Comment vous regardez un petit peu ce qui se passe? Est-ce que cet accord, qui devrait être signé en fin de semaine, pourrait inverser la tendance? En tout cas, pour l'instant, c'est compliqué d'avoir un avis clair.
Alors, je pense que, premièrement, il ne faut pas forcément être étonné que dès la première séance, la nouvelle tendance ne soit pas marquée, parce qu'on a vu qu'il y avait eu des faux départs depuis 2-3 mois dans les négociations. Oui. Mais je pense que si c'est confirmé, c'est effectivement un signal important d'inversement de tendance et probablement de revenir sur l'Europe. Vous le disiez en introduction, mais effectivement, l'Europe a fortement sous-performé depuis le début du conflit au Moyen-Orient, ce qui n'était pas du tout le cas avant. On avait très bien démarré l'année et on se souvient que le début d'année, c'était l'histoire sur le déploiement du plan allemand. Les taux de la BCE qui ont baissé, donc ça devrait faire repartir notamment le marché de la construction. Et à l'inverse, une Fed qui allait devoir monter les taux. Donc tout était fait pour l'Europe. Et puis le Moyen-Orient a cassé la dynamique parce que le Moyen-Orient a inversé l'histoire. C'est-à-dire que tout d'un coup, le prix du gaz, le prix du pétrole augmente. Attention, quelle est la région la plus impactée par ça? C'est l'Europe et pas les États-Unis. Et attention au risque de récession. Et qui n'est pas impacté par la récession? C'est l'IA. Et donc, tout d'un coup, il y a eu des flux inverses. Hein. Depuis le début de l'année et depuis l'année dernière, chaque semaine, vous aviez des flux souscripteurs sur l'Europe. Et dès que le conflit a démarré, les flux ont été vendeurs sur l'Europe. Et pour avoir parlé à beaucoup de gestionnaires d'allocation d'actifs, la plupart disaient la même chose. Hein. Ils avaient démarré l'année surpondéré Europe et ils ont vendu dès que le conflit a commencé. Donc, je ne serais pas étonné que si le conflit se termine, l'arrêt du conflit est signé vendredi, on aura une inversion de tendance. Et à mon avis, ce qui n'a pas fonctionné commencera à bien fonctionner. Parce que l'arrêt du conflit, ça veut dire moins de pression inflationniste. Parce que moins de pression sur les prix du pétrole et du gaz, moins de pression sur les hausses de taux. Donc on arrête ce risque-là. Et à partir de là, je pense qu'il y a au moins deux segments qui devraient fonctionner plutôt bien en Europe. Hein. C'est tout ce qui est construction, parce qu'on va reparler du déploiement du plan allemand. Et quand vous vérifiez, parce qu'on n'en parle plus, on ne parle que du Moyen-Orient, mais quand vous vérifiez les dépenses du plan allemand depuis le début de l'année, vous êtes tout à fait dans l'objectif de l'année entière. Ce qui est important, parce que les gens disaient l'année dernière, ils n'ont pas assez dépensé, si ça se trouve, ils ne vont pas dépenser ce qu'il faut. Quand vous regardez de janvier à fin avril, ils ont dépensé 0,8 points de PIB de plus que l'année dernière. Et sur l'année entière, donc s'ils font leur objectif, hein, ce qui sont le cas, ça va être 1,5 point de PIB allemand. Donc ce n'est pas négligeable. Donc on va reparler de ça. Et du coup, ce secteur, notamment de construction et infrastructure, devrait bien fonctionner. C'est pour ça que nous, on a des gros investissements dedans. Hein. Nos plus grosses participations, ça inclut Saint-Gobain, Vinci et Fage. Et puis un autre segment qui a beaucoup souffert, qui à notre avis devrait se reprendre, c'est tout ce qui est consommation courante, donc visibilité, rentabilité, peu de cyclicité, parce que c'est des métiers, donc dans tout ce qui est alimentation, boissons, produits du quotidien, hygiène, etc. C'est des métiers qui sont très rentables, très visibles et qui sont très sensibles au taux d'intérêt. Et donc, si la pression haussière sur les taux d'intérêt diminue, ce segment qui a peu marché, en fait, devrait bien performer.
Oui, justement, j'allais y venir au taux d'intérêt parce que dernièrement, ce que retient le marché, c'est la BCE a remonté ses taux. Là, aujourd'hui, certes, le marché actions est proche de ses records historiques, hein, l'Eurostoxx 50, l'Eurostoxx 600, mais le marché obligataire, lui, il n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant-guerre. C'est-à-dire que le Bund est toujours à 3% ou presque, le 10 ans français à 3,6. En début d'année, on était proche des 3,2, 3,3. Donc, bon, c'est pas énorme, mais en attendant, on a un marché obligataire qui redoute encore et toujours cette inflation et sur la partie action qui redoute des conséquences, notamment pour le secteur de la construction, typiquement.
Alors, et c'est vrai parce que de toute façon, ils ne vont pas retourner tout de suite au taux d'avant, parce qu'il faut quand même cranter qu'il y a eu un mouvement d'inflation hein, qui a été fait. Et d'ailleurs, nous, quand on parle aux entreprises, elles nous disent toutes que dès le mois d'avril, mai, elles ont commencé à monter les prix pour compenser leur hausse de coûts. Donc, on va avoir de l'inflation dans le système au deuxième semestre. Hein, et c'est pour ça que la BCE a été contrainte de monter les taux. Mon propos, c'est que le risque d'un dérapage des hausses de taux à la hausse, à mon avis, est derrière nous. Puisque si le conflit s'arrête, le risque d'un dérapage des prix du pétrole est derrière nous aussi. Et comme le marché raisonne beaucoup sur la dérivée seconde, plutôt que le niveau absolu des choses, c'est ça qui pourrait faire que ce segment des biens de consommation courants puisse repartir.
Marché américain, faut pas le négliger, hein, loin de là, puisque là aussi on peut trouver des aspects défensifs, mais également des valeurs de la construction. Enfin bon, il n'y a pas que l'intelligence artificielle du côté de Wall Street, même si ce sont ces valeurs qui, ces dernières semaines, ont tiré la performance. Comment aujourd'hui on peut diversifier son portefeuille? Vous avez cité des exemples en Europe, mais aussi sur d'autres marchés.
Alors nous, on est principalement sur l'Europe, donc je m'aventurerai pas trop sur l'émergent, etc. Mais un autre secteur que nous on privilégie et qui, à mon avis, est probablement vrai aussi pour d'autres régions, c'est le secteur de la santé, notamment tout ce qui est biens d'équipements médicaux. Quand vous regardez ce secteur, il est au plus bas depuis 20 ans quasiment. Là où historiquement il avait une prime de valorisation d'à peu près 50-60%, on est quasiment à parité avec le marché européen. Vous avez une conjonction de choses des dernières années, les inventaires qui étaient trop élevés post-Covid, les tarifs de Trump notamment, les pressions inflationnistes. Tout ça a fait que le secteur s'est beaucoup dégonflé. Et aujourd'hui, vous avez des très beaux métiers, leaders mondiaux, je pense dans l'imagerie médicale, dans l'ostomie, etc., dans la dialyse, qui sont à des valorisations que vous n'avez pas vues depuis 15-20 ans. Donc là, c'est vrai en Europe, mais à mon avis, c'est probablement vrai dans d'autres régions aussi.
Oui, parce que c'est l'ensemble du secteur de la santé hein, qui a été boudé, hein, même ouais. du côté de la Suisse. Typiquement, l'an passé, le marché n'a pas du tout acheté les valeurs suisses parce qu'il y avait une grosse incertitude sur ce secteur pharma, secteur qui offre de la visibilité. Après, il faut pouvoir choisir les bonnes valeurs, dans le sens où on le voit à chaque fois, tout se fait sur certaines annonces et sur le leadership, hein, notamment sur certains blockbusters.
Alors c'est vrai, et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on a, chez BDL, on n'investit pas dans les laboratoires pharmaceutiques, parce que c'est compliqué de modéliser le prochain médicament, quand il arrive dans le générique, etc. Donc on se concentre sur les équipementiers médicaux. Donc c'est pour ça que je parlais de Philips, de Siemens et Seniers par exemple, de Fresenius dans la dialyse, de Biomérieux dans les tests, etc. Donc là, c'est des métiers où vous n'avez pas de problème de générique, et par contre, c'est des métiers qui restent très oligopolistiques, avec souvent 2-3 acteurs qui contrôlent 80% du marché, et des barrières à l'entrée assez fortes, hein, parce que vous avez des problèmes de réglementation, de conformité pour mettre vos produits sur le marché.
Merci beaucoup Laurent Schauder, je nous ai accompagné ce matin pour nous donner des idées d'investissement, des pistes pour diversifier son portefeuille. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'investissement de BDL Capital Management. 9h16, tout de suite, on va rejoindre les équipes de Waterloo Asset Management et Mickaël Petitjean. Bonjour Mickaël Petitjean, chef économiste de Waterloo Asset Management. Bonjour. Vous êtes également professeur à l'université de Louvain. Nous sommes dans une semaine très intense en termes d'annonces de banques centrales. Pour rappel, la semaine dernière, il y a eu la BCE. Demain, nous aurons la Fed. Et puis, cette nuit, c'est la Banque du Japon qui a relevé ses taux. 25 points de base. Alors, c'était très attendu. Hein. Vous avez une Banque centrale du Japon qui, aujourd'hui, essaye, en plus de maintenir les pressions inflationnistes, de maintenir sa devise, hein, le yen qui est bien sûr sous pression. Alors bon, le marché action n'a pas bronché, loin de là. Hein. Le Nikkei a battu encore une fois un nouveau record cette nuit, au-delà des 70 000 points. Petite réaction sur le marché obligataire. Comment vous regardez ce qui se passe du côté du Japon, hein, sachant que le carry trade, hein, c'est quelque chose de très important pour le marché?
Oui, effectivement, la situation du Japon nous a fort intéressé depuis maintenant 2 mois. On avait eu l'occasion d'en parler la dernière fois. Je pense qu'on s'était retrouvé sur l'antenne avec la Corée du Sud. C'était les deux pays que l'on avait en ligne de mire dans le cas où la situation venait à se normaliser. Et effectivement, les indices boursiers des deux côtés ont fortement rebondi. Alors du côté du Japon, si vous voulez, on est plutôt positif parce que le Japon est en train de se normaliser. La situation, que ce soit sur le plan de l'inflation, de la croissance, on retrouve une situation qui est assez proche de la situation qu'on avait connue en Europe pendant les années, on va dire, 2010. Une croissance qui revient puisqu'on s'attend sur base annualisée à une croissance de 2,1%. Et une inflation quand même malgré tout qui reste sous contrôle. Il faut savoir qu'au Japon, il y a une tendance de la part des entreprises à plutôt digérer la hausse des prix au travers de leurs marges. Donc, les entreprises japonaises ont tendance à rogner davantage sur leurs marges qu'à l'étranger, si bien que les répercussions sur le pouvoir d'achat des Japonais est moins important. Sachant par ailleurs, d'ailleurs, que les salaires, pour la troisième année consécutive au Japon, ont progressé de 5%. Donc, il y a des négociations salariales qui sont menées chaque année. Et ça fait la troisième année consécutive que les salaires augmentent de 5%, ce qui compense en fait le choc inflationniste et qui permet effectivement d'avoir une forme de dynamique au sein de l'économie japonaise qu'on n'avait pas connue depuis très longtemps. Et les salaires réels ont même augmenté au mois d'avril. Donc, la hausse de 25 points de base au Japon s'explique, on ne peut pas le nier, par une forme d'inflation importée qui dégrade les termes de l'échange, c'est-à-dire que les importations, le coût des importations augmente davantage finalement que l'impact positif que ça peut avoir sur les exportations. Donc là, il y a un impact là qui est non négligeable. Mais néanmoins, il y a une forme de dynamisme au sein de l'économie japonaise qui conduit là à la Banque du Japon de manière tout à fait logique, j'allais dire, contrairement à la zone euro. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus, mais contrairement à la zone euro, la hausse de 25 points de base est de nos points de vue tout à fait légitime.
C'est une semaine importante pour les banques centrales, avec le Royaume-Uni, la banque du Royaume-Uni qui va prendre la parole, la Banque nationale suisse, Norvège, Suède, Russie, et puis surtout la Fed. Réunion aujourd'hui et demain. Kevin Ward va tenir sa première conférence de presse demain soir. Contrairement à la Banque du Japon et à la BCE, il ne faut pas attendre de décision monétaire pour la Fed, pour la Banque centrale américaine. Néanmoins, peut-être des indices, des messages peut-être sur la politique à mener pour 2026, sachant que pour l'instant, Kevin Ward n'a pas dit grand-chose sur comment il comptait mener sa barque.
Oui, on aura sans doute encore une preuve de fort désaccord au sein du comité. Rappelez-vous que la dernière fois, je pense qu'on n'avait jamais observé un tel niveau de désaccord depuis les années 90. Ça risque de se confirmer lors de la prochaine réunion. Mais vous savez, je pense que le marché est tout à fait capable de digérer certainement une hausse de taux de 25 points de base. Et de notre point de vue, ce serait pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Il faut pas qu'elle intervienne trop tôt, on est bien d'accord. Mais si elle devait intervenir même dans le dernier trimestre de cette année, ce serait certainement pas une mauvaise nouvelle de notre point de vue, parce qu'il faudrait éviter à tout prix ce qu'on appelle un run-up, c'est-à-dire une hausse trop forte des cours qui pourrait provoquer de la volatilité inutile. Et une hausse de 25 points de base, c'est digérable. Vous savez que les taux ici, finalement, n'ont pas beaucoup bougé. On a baissé, on va dire, de peut-être 15 points de base sur le 10 ans suite à cet accord, entre guillemets. J'aimais bien les guillemets, parce que c'est un mémorandum qui a aucun poids légal, en fait. Donc, faut rester quand même vigilant sur ce qui risque d'arriver dans les mois qui viennent avec l'Iran. C'est la raison pour laquelle je pense que la décision de ne pas bouger les taux d'ici la fin août, pour moi, serait une bonne décision. Encore une fois, une hausse des taux serait tout à fait logique, étant donné la très bonne performance des entreprises américaines.
Il faudra bien sûr suivre ce qui se passe également du côté des banques centrales, notamment cet été, puisque comme chaque année, on a le symposium de Jackson Hole qui se tient, où là, on aura peut-être également d'autres éléments avec un peu plus de recul par rapport à la situation en Iran. En attendant, tout va bien du côté de Wall Street. Hier soir, le Nasdaq a gagné 3%. C'était sa meilleure séance depuis fin mars. SpaceX, qui a gagné 20% vendredi, a encore gagné 20% hier. Bref, c'est encore la tech qui tire la cote, Michael Petitjean. On se posait la question juste avant vous avec Laurent Chauder, en se disant, maintenant que la guerre est peut-être finie avec les États-Unis et l'Iran, c'est peut-être le moment de revenir sur les valeurs cycliques, les valeurs défensives. Visiblement, non. Hier, le marché avait encore envie de jouer les leaders de l'intelligence artificielle.
Oui, et c'est la raison pour laquelle nous n'allons pas fondamentalement changer notre politique d'investissement. Elle est restée, j'allais dire, très alignée depuis maintenant plusieurs mois, et c'est très important de ne pas rater un train qui est en marche. Et vous savez, c'est vrai qu'on peut suivre une politique davantage de diversification internationale. On a été particulièrement positif sur les États-Unis pour des raisons qui sont tout à fait logiques, puisqu'il faut quand même garder en tête que toutes les perspectives de croissance des bénéfices trimestriels sur les trois prochains trimestres sont au-delà de 20% lorsqu'on tient compte des gains exceptionnels, donc lorsqu'on les corrige. 20%, c'est bien au-dessus des moyennes historiques qui sont aux alentours, on va dire, de 9-10% en fonction du point de repère. Donc on est dans un marché qui crée beaucoup de richesses, de bénéfices, et donc les États-Unis restent un secteur, un marché très intéressant. Les PE ont même eu tendance, les rapports cours-bénéfices ont même eu tendance à baisser sur les 10 derniers jours. Donc on reste, nous, positif sur les États-Unis. C'est vrai qu'on peut davantage diversifier. Néanmoins, vous savez, j'ai parlé de la Corée du Sud et du Japon, on parle souvent des pays émergents, il faut quand même se rendre compte que ces deux pays-là représentent plus de 50% du poids des indices des pays émergents hors Chine. Nous, on n'est pas positif sur la Chine, on n'est pas surpondéré sur la Chine, plutôt négatif. Et donc, quand on veut investir dans les pays émergents, en fait, on investit essentiellement en Corée du Sud et à Taïwan, et principalement trois entreprises qui bougent le marché. Donc oui, les États-Unis incontournables, avec une politique de diversification plus prononcée de notre point de vue sur l'Asie que sur l'Europe.
Le Le Nasdaq 100 a gagné 34% en ligne droite depuis fin mars. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment vous dites bon allez là c'est bon, il faut réduire, parce que là j'entends le message, il faut pas louper le train, il faut accompagner le mouvement, mais cet indice ne va pas gagner 30% tous les deux mois. Enfin au bout d'un moment, il y aura forcément un élément qui va faire que oui. La tendance va peut-être pas être cassée, mais en tout cas se stabiliser, voire même assister à quelques prises de profit.
Oui, il faudra bien suivre l'évolution des perspectives de bénéfices. C'est vrai qu'on pourrait aller vers des déceptions. On est très haut, hein, en fait, hein, effectivement, dans les attentes de croissance de bénéfices. J'avais encore regardé un chiffre récemment. On était au plus haut depuis 1985 au niveau des perspectives. On était à 28%. Alors, c'est des perspectives qui sont calculées bottom-up, c'est-à-dire qui sont calculées à partir des price targets, des analyses financières, donc entreprise par entreprise, qui sont généralement bien au-dessus de ce qu'on obtient. Mais l'écart, justement, qu'on observe sur base historique par rapport à ce qu'on observe maintenant est particulièrement élevé. Donc le marché effectivement est optimiste. Maintenant, il faut reconnaître que sur les derniers mois, voire la dernière année, on a eu des belles surprises. Et on a révisé systématiquement à la baisse les perspectives de croissance des bénéfices sur les trois derniers trimestres, sauf sur le premier trimestre 2026, où là, on a eu une révision à la hausse. C'est relativement rare, mais ça a été le cas. Donc, faudrait pas non plus qu'on soit trop optimiste à l'égard des introductions en bourse. C'est clair que si on parle de SpaceX, de mon point de vue, il y a une bulle. Ça, c'est, on n'a pas des PE qui dépassent 100 sans qu'il y ait une bulle. Mais de là à vouloir généraliser à l'ensemble du marché, là, il y a un pas que nous ne franchirons pas.
SpaceX qui est devenue hier la sixième capitalisation mondiale devant TSMC notamment, avec 2500 milliards, oui, 2500 milliards de capitalisation boursière. Merci beaucoup Michael Petitjean de nous avoir accompagné ce matin, chef économiste de Waterloo Asset Management et professeur à l'université de Louvain. Le CAC 40 est en hausse de 0,3%, tous les détails avec Paul Marcel. Paul Marcel que nous retrouvons depuis l'atelier des options. Bonjour Paul, 8411 points pour le CAC 40, plus 0,3%. Comment vous regardez un petit peu ce qui se passe à la Bourse de Paris? Le CAC a touché pour rappel les 8500 points hier soir, n'a pas tenu dans la séance.
Oui, bonjour Étienne. Bah, écoutez, les marchés américains se sont fait peur en début de semaine dernière avant de se reprendre en fin de semaine, histoire que Trump puisse passer un bon anniversaire. Le Russell 2000 et Dow Jones faisant même des plus hauts historiques, alors ce qui n'est pas le cas de notre cher indice CAC 40. D'autant plus que la décision de la semaine dernière de la BCE de remonter ses taux ne va pas aider. Alors, nous allons voir la décision de la Fed ce mercredi, mais le Fed Watch Tool du CME indique un statu quo à 98,6%. Ça sera une semaine courte à Wall Street cette semaine, car vendredi sera férié, mais c'est une semaine d'expiration des quatre sorcières sur les marchés. Alors, cela peut amener de la volatilité. Au niveau des options, les market makers price un mouvement potentiel du CAC 40 de plus ou moins 1,10% d'ici la fin de la semaine. Alors, ce qui me paraît vraiment pas beaucoup compte tenu des différentes news économiques à venir. Maintenant, d'un point de vue graphique, la résistance des 8259 points a enfin été cassée par le haut et la cible de 8454 a été atteinte hier matin. Alors effectivement, maintenant, comme vous dites, il y a eu une pause. Donc la prochaine cible à la hausse sera le comblement du gap de 8554 points ouvert le lundi 2 mars avant d'aller refaire éventuellement des pots sur les 8625. Mais attention au comblement du gap, je ne serais vraiment pas surpris de voir un petit retracement par la suite. Alors, si la hausse de ces derniers jours venait à s'essouffler, on pourrait rejoindre rapidement les 8259 points qui sont devenus maintenant support. Et en cas de cassure de support, le CAC 40 pourrait réintégrer son range habituel de ces derniers mois.
Un dernier mot de Total Energy qui a été l'une des plus fortes baisses hier, avec bien sûr la forte baisse des cours du pétrole. On est à $82 ce matin sur le Brent et forcément ça pèse sur Total qui recule de 0,4% à 72,70 €.
Oui, alors Total a souffert ces dernières séances à cause de l'accord potentiel entre les États-Unis et l'Iran et continuera de souffrir si l'accord est réel et que le détroit d'Ormuz s'ouvre définitivement. En revanche, à la moindre escarmouche, Total pourra bénéficier d'un retour du pétrole sur les 90 ou 100 dollars. Alors, petit rappel, Total détache le solde de son dividende de l'exercice 2025 le 30 juin. D'un point de vue graphique, en hebdomadaire, la tendance est toujours haussière mais se stabilise dans un range compris entre un support à 72,34 € et une résistance à 81 €. Avec la perspective d'un accord, l'action est très proche de casser ce support, des 72,34 € ce matin, on est vraiment très proche. Si on casse ce support, la baisse a de fortes chances de se poursuivre, voire de s'accélérer jusqu'au prochain support à 63,60 €. En revanche, si l'accord tombe à l'eau, Total va rester dans le canal que j'ai cité et reprendre le chemin de la hausse vers la résistance des 81 €.
72,75 à l'instant pour Total Energy qui recule de 0,3% après avoir cédé 4,4% hier. Merci beaucoup Paul Marcel de nous avoir accompagnés ce matin, cofondateur de l'atelier des options, pour regarder la séance d'un point de vue technique, plus 0,3% donc pour le CAC 40 à 8415 points. À suivre donc General Motors qui est attendu en hausse de 20% avec le Wall Street Journal qui évoque des pourparlers avec Lockheed Martin pour équiper le constructeur de défense sur certaines pièces. Ça profite donc à General Motors. Le groupe pour l'instant ne confirme pas ces discussions. Dans un instant, vous retrouvez les experts avec Raphaël Lejean. La séance a su bien sûr tout pour investir à partir de 11h et donc BFM Bourse à partir de 15h30. Très bonne journée.
Good Morning Market sur BFM Business.